Alors, on entre aujourd'hui dans le drame du péché, le péché de cette femme et le péché de ceux qui veulent la lapider, c'est-à-dire la faire mourir. En fait, le temps du carême, c'est toujours un temps où on voit jusqu'où peut aller notre péché et du coup, jusqu'où nous avons besoin de salut. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ces hommes de loi, là, ils vont utiliser la femme, utiliser la loi pour essayer de se débarrasser de Jésus. En fait, ils n'en veulent pas de Jésus. Parce que Jésus les irrite, parce qu'il bouleverse leur tradition. Et donc, il faut qu'on trouve des arguments pour arriver à le piéger. Alors, vous voyez, d'abord, ils utilisent la femme. Parce que, en fait, si elle a commis l'adultère et qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère, je suis désolé, mais l'adultère, ça se vit à deux. Bon, donc pourquoi l'homme n'est pas là? Ça, c'est la première chose. En fait, dans ce cas précis, si l'homme s'échappe, la loi le dit, au chapitre 22 du Deutéronome, elle ne s'applique pas à la loi. Bon. Il y a un autre cas où si la femme a conçu un enfant, par exemple, à la campagne, suite à un adultère, bon, mais à la campagne, c'est la même chose, puisque elle était dans un lieu où, même si elle avait crié, on ne pouvait pas la secourir, la loi ne s'applique pas. C'est très précis. Vous verrez ça au chapitre 22 du Deutéronome. Donc, par rapport à la loi, en fait, ne s'applique pas. Et ils utilisent la loi un petit peu comme... donc, ils utilisent la femme, ça leur fait un objet, ça, c'est ça, voilà. Et puis, ils utilisent la loi comme le démon faisait dans le désert. Pour faire chuter Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il cite la parole de Dieu. Dans la Genèse, c'est la même chose, au premier chapitre, hein, quand le serpent redit les paroles de Dieu, alors Dieu vous a dit, il va réutiliser les paroles, mais en fait, quand vous regardez dans le texte, il les détourne, il les escamote, il les diminue. Bon. En fait, c'est une lecture superficielle de la loi, et c'est peut-être pour ça que Jésus, vous voyez, inscrit sur le sol. Parce que, en fait, le sol, ça veut dire que c'est la loi qui est inscrite sur du sable. Il suffit qu'il y ait quelques coups de vent et plus rien ne reste. Ben, c'est ça. C'est des cœurs de pierre qui est en face. Et donc, cette loi, elle n'est pas descendue. Alors, c'est intéressant. Vous voyez, pour nous, aujourd'hui, c'est très pratiqué. Vous voyez, on va utiliser des arguments, l'amour, la tolérance, pour faire passer ce qu'on veut. Dans les questions d'éthique, de bioéthique, c'est toujours au nom de, pas de la loi, mais au nom de l'amour, au nom du bien-être. Il faut vraiment faire attention, qu'est-ce qui est utilisé pour faire passer mon idée, qui est une idée erronée. Quelle aurait été l'attitude juste face à cette femme? Deux points. En fait, cette femme est pécheresse, c'est vrai. Pourquoi je le dis? Parce que Jésus le dit à la fin. Va et ne pêche plus. Donc Jésus reconnaît qu'elle a péché. Vous voyez? Bon. Mais l'attitude juste, c'est la recherche du bien de l'autre. Quand tu enlèves la paille dans l'œil de ton frère, tu vas rechercher le bien de l'autre. Donc je vais rechercher... ce qui va relever l'autre pour la vie. Et là, en fait, ils ne veulent pas tellement sauver cette femme. Ils ne veulent pas la relever. Ils veulent la condamner. En fait, ils n'ont pas le souci de la personne. Pour nous, c'est très concret. Ça veut dire que, vous voyez, toute remarque doit faire grandir. Quand on sent qu'il faut donner une lumière par rapport à un désordre, un péché, c'est pas une lumière froide, c'est pas une lumière de néon. C'est une lumière qui en fait, apporte une chaleur. Comme dit le livre de Malachie, hein, « Dans tes rayons, nous trouvons la guérison. » Donc c'est ça, quand on dit dans la première lecture, « Il fait une route à travers la mer. » La mer, c'est le péché. Hein, symboliquement, dans l'Ancien Testament, la mer, c'est obscur, c'est angoissant. Eh bien, il y a une route. Dieu fait une route à travers le péché. Dieu fait une route à travers cette femme et son péché. Il lui donne de la relever. Donc, on peut dénoncer le mal, mais à condition, il y a trois conditions que je vais donner. La première, c'est est-ce que j'ai vérifié que c'est juste ? Vous voyez ? Et donc, en général, ça se fait à plusieurs. C'est-à-dire que on peut se tromper. Je pense en matière d'éducation, faut toujours, c'est bien de trouver des gens qui ne pensent pas tout à fait comme nous. Vous savez, le véritable éducateur, c'est pas celui qui éduque bien, c'est celui qui sait qu'il ne sait pas éduquer. Et du coup, comme je sais que je ne sais pas bien éduquer, du coup, je vais toujours être en réceptivité, en écoute, en mode d'apprentissage. Un bon prêtre, c'est un prêtre qui est toujours en mode d'apprentissage. Donc la première chose, est-ce que j'ai vérifié que c'est juste ? La deuxième chose, comment ma remarque, mon attitude va construire l'autre et donc l'amener à un plus grand bien. Pas la peine que je dise quelque chose si le fruit n'est pas bon. Et la troisième, c'est est-ce que le bon moyen que je vais employer, enfin le moyen que je vais employer, il est le bon ? Est-ce que c'est au bon moment ? Les gens, ils règlent des problèmes par un texto ? Non. Est-ce que c'est le bon moment ? Bon. Donc, voilà sur comment on rectifie, vous voyez, on dénonce le mal, mais en même temps, comme un bon médecin qui dénonce le mal, en même temps, il donne la guérison. Alors, la deuxième chose, l'attitude juste, c'est que le péché de l'autre m'interroge sur ma propre responsabilité. En fait, il y a deux petits cas. Soit la dénonciation du péché de l'autre va devenir une glorification de soi. Soit le péché de l'autre m'invite à une remise en question. Qu'est-ce que j'entends par glorification de soi ? En fait, c'est assez, entre guillemets, sympa de dénoncer le péché de l'autre, parce que ça veut dire que moi, je ne suis pas pécheur. Si je te juge, c'est que toi, tu ne peux pas me juger. En fait, si je te dis que tu es dans l'erreur, c'est que moi, je suis dans la vérité. Et donc, ça me protège. Vous voyez ? Il peut y avoir toujours, derrière la dénonciation, une forme d'affirmation de soi. Et du coup, d'éviter de se remettre tout simplement en question. À l'inverse, le péché de l'autre peut me remettre en question. Je prends deux petits exemples. Vous voyez, on a un phénomène en France qui est certaines personnes qui partent au djihad. Alors, je lisais des articles où, en fait, je cite littéralement, la société du vide fait partie des causes insoupçonnées du phénomène de radicalisation. Quand vous avez une société qui est vide, où il n'y a pas d'idéal, eh bien, dans un quotidien sans héroïsme, sans idéal, sans foi, chacun cherche des cadres, des repères, des ambitions. Fabrice Hadjadj disait dans un article, en fait, il disait qu'il faut retrouver une certaine virilité dans l'annonce de l'Évangile. Le chrétien est un frère universel, mais il est aussi un bon soldat du Christ. Et quand on a une société molle, où il n'y a pas d'idéal, il n'y a rien qui est proposé, ben un jeune, il veut quelque chose de fort, il veut des repères, eh bien il part. Et donc le djihadisme, dans cet article, alors après on en discutera ce soir au dîner, mais le djihadisme, oui, nous dit, attends toi, société là, occidentale, là, qu'est-ce que tu fais ? Toi, église, qu'est-ce que tu fais ? Bon, Et alors, il continue dans l'article en disant, ce qui est sympathique dans l'islam, c'est qu'il y a des cadres, il y a des règles, il y a des lois. Et donc, vous avez certains, même dans les milieux chrétiens, qui aiment bien se radicaliser sur la liturgie, sur des tas de trucs. On a besoin, le jeune a besoin de cadres. Ah, il va trouver un truc cadré, un peu basique, assez clair, et il part. Alors, je prends un deuxième exemple, on va dire, les jeunes, ils vont pas assez à la messe, ils sont pas dans nos paroisses. Qu'est-ce que tu fais pour qu'ils viennent? Le problème, mes enfants sont pas chrétiens, alors après, il y a les histoires personnelles, il y a chacun, la petite Thérèse, elle est pas venue de nulle part. Il y avait les parents, parents Martin derrière. Dominique Savio, il n'est pas venu non plus de nulle part. Il y avait Don Bosco derrière. Donc, vous voyez, c'est ça que fait Jésus quand il dit « Mais alors, celui qui est sans péché, qui lui jette la première pierre ?» Ça veut dire, attendez, très bien les adultères, mais je voudrais que vous vous posiez une question sur vous-même. Vous allez vous poser la question si vous êtes sans péché. Et tu vois, Père Paul, si tu dis que les jeunes, les vieux, viennent pas à la messe, pose-toi la question. Toi, pasteur. Père Benoît, pareil. Et c'est ça qu'arrive à faire Jésus, il arrive à passer d'un péché d'une personne au péché de ceux qui veulent dénoncer. On l'avait aussi quand il y a une période, on parlait beaucoup des banlieues avec les bagnoles qui étaient enflammées. Si tu mets des gens dans des cages à poules, là, sur 50 étages, ils pètent les plombs. Donc, à un moment donné, il faut te poser la question, est-ce que la voiture brûlée, c'est pas lié à un certain péché un peu collectif? Donc voilà, Jésus arrive à ce que les accusateurs s'accusent eux-mêmes. Et donc l'année de la miséricorde, c'est l'année où on entre, dans une accusation mutuelle. Et donc dans la miséricorde offerte à tous. Tu es pécheur, c'est vrai, mais moi je suis pécheur. C'est très beau parce que dans le livre du pape François, le nom de Dieu est miséricorde, et il l'avait pris dans un autre article aussi. On lui avait posé la question, mais comment vous vous définissez, vous? Vous êtes qui? Il avait dit, je ne sais pas quelle est la définition la plus juste. Je suis un pécheur. C'est la définition la plus juste. C'est pas une manière de parler, un genre littéraire. Oui, la meilleure synthèse, celle qui est la plus intérieure, que je ressens comme étant la plus vraie, est celle-ci, je suis un pécheur. Sur lequel le Seigneur a posé un regard. Alors j'ai une dernière question, est-ce que c'est pas facile de pardonner à la femme adultère? Elle a commis quelque chose de grave. Il y a des choses plus graves que l'adultère. Le meurtre, c'est quand même plus grave. Est-ce que c'est pas facile? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une punition au sens noble du terme, c'est-à-dire une compensation, une justice? La condamnation, c'est Jésus qui l'a prise. Il l'a prise sur la croix. Et vous verrez dans l'évangile de Jean, au chapitre suivant, très curieux, on veut le lapider. En fait, Jésus, il peut pardonner et il donne à cette femme le pardon parce qu'il prend la condamnation sur lui. Et nous, c'est un petit peu la même chose. Vous voyez, par rapport à l'autre, je me disais, mais qu'est-ce que je suis capable de souffrir pour l'autre? Qu'est-ce que je suis capable de souffrir pour l'autre? J'aime bien Saint Paul qui dit... Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort. C'est que tu ne peux pas donner la miséricorde, pardonner, si d'une manière ou d'une autre, tu ne t'impliques pas, en fait, tu ne souffres pas. Il y a une certaine souffrance. Voilà, essayons de demander au Seigneur cette recherche vraiment du bien de l'autre dans toutes nos situations difficiles. Et puis, essayons de nous interroger sur notre responsabilité dans ce désordre que nous vivons autour de nous, dans tout notre quotidien. Amen.